Vous écoutez
RMC. RMC. 5h-6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
Bon réveil à tous, bienvenue sur RMC. Bon, je dis bon réveil, même si certains, on le sait, finissent leur nuit de boulot, d'autres sont déjà sur la route depuis des heures maintenant. On est tous ensemble, c'est ça l'essentiel, on est toujours aussi heureux de se retrouver en ce jeudi matin, ce jeudi 2 mai, avec évidemment Géraldine Demory. Salut Géraldine.
Bonjour Charles, bonjour à tous.
Tout va bien ?
Ça va ce matin Charles ?
Ça va, bah oui, on va parler, tiens, météo ce matin, parce que énormes orages hier soir.
Il y a eu vraiment de gros orages.
De la grêle. Vous l'avez peut-être vécu d'ailleurs, racontez-nous ce matin au 32-16, ce qui est tombé par chez vous hier soir. On fera le point aussi, c'est un peu plus calme a priori ce matin Géraldine.
Oui, il y aura encore de la pluie, mais effectivement, on a juste une vigilance sur le Calvados pour les crues, suite à ces fortes pluies justement.
Mais n'hésitez pas à témoigner ce matin, vous connaissez le chemin. Le 32-16, évidemment, on va revenir en détail sur la météo du jour. Et puis, tiens, au 32-16, on attend aussi peut-être les supporters parisiens ce matin, parce qu'on se réveille forcément avec un peu la gueule de bois.
Tapez la frappe, oh, le poteau qui sauve comme elle, c'est pas fini, Mbappé encore, la frappe, le ballon, Barcola, la frappe derrière, oh, le poteau, l'autre poteau pour Hakimi, c'est pas fini, avec la tête, oh là là, le centre de la frappe.
Oui, poteau, c'est pas passé loin hier soir, mais ça se termine par une défaite du PSG à Dortmund, 1-0 lors du match aller de la demi-finale de Ligue des Champions.
Allez, c'est pas fini, Charles.
Oui, contre le Barça aussi, c'était perdu au match aller, et finalement, on connaît la suite au retour, donc on verra. Le retour, c'est mardi prochain au Parc des Princes. Ce sera à vivre évidemment sur RMC. C'est parti pour une semaine bien stressante pour les supporters parisiens. On vous attend ce matin au 32-16. Et puis ce soir, on espère que ça se passera mieux pour nos amis marseillais. Et oui, Marseille, Atalanta, un vélodrome plein à craquer, demi-finale aller de la Ligue Europa contre les Italiens, donc de l'Atalanta Bergame.
Soirée spéciale sur l'antenne d'RMC, le match à 21h, suivi de l'after, puis de la libre antenne jusqu'à 1h.
Et voilà aussi, est-ce que toute la France sera derrière l'OM ce soir? N'hésitez pas, supporters marseillais, on vous attend.
J'ai quelques doutes, hein.
Au 32-16 ce matin, oui, c'est le jeu. On vous lit aussi sur l'appli RMC. Et puis l'autre match événement, c'est dès ce matin, 8h30 sur RMC et BFM TV, Apolline de Malherbe, face au ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire, avec cette question: où trouver tous ces milliards d'euros d'économies?
Les heures sup des profs qui étaient dans le viseur de Bercy, eh bien c'est fini. Face au tollé, le gouvernement a rétro-pédalé hier, mais le budget de l'éducation sera quand même raboté de près de 700 millions d'euros. Le gouvernement espère aussi faire des économies avec la réforme de l'assurance chômage.
Oui, assurance chômage, éducation, santé, où trouver les milliards d'euros d'économies à faire? À gauche, on plaide plutôt pour de nouvelles taxes, hein, sur les super profits par exemple. Mais vous, ce matin, dites-nous au 32-16 où trouver ces milliards d'euros d'économies. N'hésitez pas, dès maintenant, si vous avez aussi des questions pour Bruno Le Maire, des points précis sur lesquels vous attendez le ministre de l'économie et des finances, ça se passe tout de suite avec vous au 32-16. C'est à vous de nous dire, sur Direct Studio aussi évidemment. Et puis tout de suite à 4h59, tiens, le journal de 5h dans un instant. Quentin Vinet est déjà installé dans le studio, mais Géraldine, comme promis, un point complet sur la météo ce matin. Il pleut toujours sur une partie de la France, mais ça se calme.
Oui, sur une large moitié, ce sera encore de la pluie. Tiens, on a Richard qui nous dit: oui, gros orage hier soir en Ile-de-France. C'est sacrément tombé, surtout sur les espoirs de Paris. Oh non, Richard, ça, c'est pas sympa.
Ouais, c'est pas faux.
En tout cas, oui, le temps qui va rester donc très pluvieux sur une large moitié, c'est dans le sud-est qu'on aura les pluies les plus continues. De la neige en montagne à partir parfois de 1200 mètres pour le massif central. C'est plus calme vers l'Atlantique où on aura quand même de belles éclaircies, même si on a un tout petit risque d'averse. Les températures en baisse et on est vraiment sous les normales maintenant. Il fera 12 à Lyon cet après-midi, 14 à Paris, Marseille, Brest, 16 à Bordeaux, 18 à Lille, jusqu'à 19 à Strasbourg et Bastia.
La météo sur RMC avec Sonelia. 30 campings villages vacances pour vos plus belles expériences en France et en Europe.
Bon réveil à tous, vous êtes bien sur RMC, il est 5h.
RMC, Charles Matin.
Toute l'info en direct le matin, c'est sur RMC et c'est votre journal présenté par Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Lendemain de défaite donc pour Paris, 1-0 hier soir à Dortmund, demi-finale aller de la Ligue des Champions. Il y aura le match retour la semaine prochaine. Le rétro-pédalage du gouvernement qui ne touchera finalement pas aux heures sup des profs dans le viseur de Bercy, le ministre Bruno Le Maire, invité de RMC ce matin à 8h30. Et puis une trentaine de vols déroutés des aéroports parisiens hier soir, la faute aux violents orages qui ont fait des dégâts dans le vignoble en Bourgogne.
La douche froide pour les supporters du Paris Saint-Germain hier soir.
Oui, alors rien à voir avec les orages, c'est que les Parisiens ont perdu la première manche en demi-finale de Ligue des Champions, défaite 1-0 hier soir à Dortmund. En attendant la deuxième manche mardi prochain à Paris, le PSG a mis du temps à démarrer son match avant d'être malchanceux. Deux poteaux dans la même minute, au retour des vestiaires par exemple. Clément Brossard, dans un bar parisien hier soir pour RMC, nous raconte la soirée.
Des visages crispés, à se ronger les ongles, les supporters parisiens ont vécu une soirée frustrante. Un cri de désespoir. Quand Paris touche deux fois les poteaux.
C'est amer, franchement c'est amer parce que le 1-0 il fait mal.
Charles est partagé entre deux sentiments.
La frustration parce que je pense qu'il y avait la place de au moins égaliser. Après de la confiance, je pense qu'on a la meilleure des deux équipes et je pense que ouais, sur le match retour ça devrait le faire.
Anaïs et Maïwenn, elles, n'ont aucun doute.
Bien sûr, ce sera à la maison en plus. Donc bien sûr. Le match retour, moi j'ai aucune crainte, on va le faire. Ils ont mis qu'un but, hein. Facile. Ils n'ont pas mis trois, facile.
Trois, comme le nombre de buts inscrits par Barcelone en quart de finale aller. Battu 3-2, Paris avait su se qualifier. Adèle espère un même scénario.
Cette équipe, elle a déjà prouvé qu'elle avait du caractère. On en attend plus au match retour et on y croit toujours.
Et si certains supporters se retrouveront dans les bars, Olivier lui sera au Parc des Princes mardi prochain.
Ça va être fou. Ça va être la meilleure ambiance de l'année, je pense.
Tous espéreront voir Paris se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions.
Alors la mauvaise nouvelle de la soirée, c'est la nouvelle blessure au genou de Lucas Hernandez, touché sur l'action du but allemand. L'entraîneur Luis Enrique était d'ailleurs pessimiste à la fin du match, mais il promettait une réaction de son équipe au match retour, donc mardi prochain.
Les joueurs ne sont pas des machines ou des robots. Au début, on a manqué de technique pour affronter leurs défenseurs. Et dans un match ici, avec ce public, il faut être plus incisif devant. On a eu des occasions claires.
Et après Paris, place à Marseille ce soir, 21h, sur RMC, donc contre l'Atalanta Bergame, en demi-finale de Ligue Europa, l'autre Coupe d'Europe, match aller au Stade Vélodrome. Le président de l'OM, Paolo Longoria, s'attend à une ferveur exceptionnelle. Il promet l'enfer aux Italiens qui ont éliminé Liverpool, quand même, en quart de finale.
Et évidemment, supporters marseillais, la ferveur ce soir du côté du Vélodrome. On vous attend au 32-16, supporters parisiens aussi. Qu'est-ce qui a manqué hier soir au PSG? Est-ce que vous y croyez pour le retour? Là aussi, le 32-16 est ouvert.
La bataille de chiffres pour la mobilisation du 1er mai. Il y avait 121 000 manifestants dans la rue partout en France, nous dit le ministère de l'Intérieur. La CGT en a compté 210 000, 45 interpellations dans le cortège parisien. Des affrontements à distance dans la campagne des européennes, en attendant le débat entre Jordan Bardella du Rassemblement National et la macroniste Valérie Hayet ce soir sur BFM TV. Le Rassemblement National était comme prévu à Perpignan hier pour lancer un appel à tous les électeurs de droite, mais aussi à ceux qui ont le cœur à gauche. Pendant ce temps, Marion Maréchal, tête de liste Reconquête, était dans le village natal de Jeanne d'Arc. Déplacement dans une foire du Loiret pour le Premier ministre Gabriel Attal, pressé d'intensifier sa campagne par Emmanuel Macron. Et meeting à Villeurbanne hier soir pour Raphaël Glucksmann, tête de liste socialiste, empêché de manifester à Saint-Étienne plus tôt dans la journée par des insoumis, selon lui, ce que dément le camp de Jean-Luc Mélenchon, Cyprien Pézeril.
Officiellement, seules deux organisations assument avoir empêché la tête de liste socialiste d'accéder à la manifestation. Les jeunes communistes de la Loire, avec une banderole Glucksmann dégage, ainsi qu'un syndicat étudiant affilié à la CGT. Outre ces revendications, sur les images, on aperçoit aussi des drapeaux de la France insoumise. Il était prévisible que la présence de Raphaël Glucksmann soit perçue comme une provocation, dit même la députée LFI de Saint-Étienne. Plusieurs participants assurent d'ailleurs à RMC qu'elle a encouragé des manifestants à l'écarter. Une implication des insoumis immédiatement contesté par Jean-Luc Mélenchon. La tête de liste Manon Aubry a aussi décroché son téléphone, déplorant auprès des socialistes les actions. Mais la France insoumise est prise à son propre piège de la radicalisation, analyse un élu PS, convaincu que le mouvement est désormais dépassé par une partie de sa base.
Première nuit sous couvre-feu à Nice, la cinquième ville de France qui interdit désormais aux mineurs, le moins de 13 ans, d'être dans la rue entre 23h et 6h du matin, dans plusieurs quartiers, y compris dans le centre-ville. C'est une information RMC ce matin, nouvel appel à la grève à la SNCF, cette fois le mardi 21 mai, mais alors uniquement en Île-de-France où les syndicats demandent de meilleures primes pour travailler pendant les JO, réclamant comme les agents RATP qui s'étaient eux-mêmes inspirés de la mobilisation des cheminots dans leur dernière discussion. Tout ça donc dans le contexte de la chasse aux économies. 20 milliards d'euros pour cette année, c'est la mission, vous le savez, du ministre Bruno Le Maire qui est l'invité de RMC ce matin à 8h30 et contraint de faire marche arrière finalement face au tollé. Il n'y aura pas de coup de rabot sur les heures supplémentaires pour la fin d'année pour les enseignants, Mao Baker-Granier.
Dans les établissements, certaines activités comme des heures de soutien scolaire avaient déjà été annulées suite à l'annonce du ministère qui espérait de cette manière économiser 100 millions d'euros. Mais la colère des syndicats aura eu raison de cette mesure. En pleine campagne électorale, un cadre de Renaissance explique qu'il a fallu vite éteindre l'incendie. Rétropédalage donc et un nouveau couac pour la ministre de l'Éducation nationale. Les syndicats de direction et d'enseignants se disent soulagés de pouvoir finir l'année avec les moyens prévus initialement, mais restent inquiets. Bercy demande 683 millions d'euros d'économies à l'éducation nationale. On n'est pas naïf, ce sera pris ailleurs à un autre moment, explique une source syndicale.
Bon, le gouvernement qui rétropédale au dernier moment hein, sur les heures sup des profs, bon, faudra quand même trouver les 700 millions d'euros d'économies hein, dans l'éducation et puis plus largement, c'est 20 milliards d'euros d'économies. Où les trouver? Bruno Le Maire, invité du face-à-face tout à l'heure, 8h30 sur RMC et BFM TV. Mais dès maintenant, on vous pose la question ce matin au 32-16. Éducation, santé, assurance chômage, où le gouvernement doit-il effectuer des coups de rabot pour trouver ces milliards d'euros? C'est vous qui nous le dites ce matin au 32-16.
Encore des manifestations monstres en Géorgie hier soir, deuxième soirée de suite. Des dizaines de milliers de Géorgiens ont brandi des drapeaux européens. L'hymne européen a entonné également pour dénoncer un projet de loi sur l'influence étrangère qui secoue ce pays du Caucase depuis trois semaines, considéré comme un rapprochement avec la Russie. Aux États-Unis, bilan de 300 interpellations dans deux universités de New York la nuit précédente. Des affrontements aussi sur le célèbre campus UCLA de Los Angeles entre pro-palestiniens et pro-israéliens. La nuit a donc été très orageuse en Bourgogne, en Picardie, en Normandie, en Île-de-France. Aussi des orages accompagnés de fortes pluies, de gros grêlons avec des conséquences sur le transport des avions Roissy-Orly, Marion Gauthier.
Oui, dans les aéroports d'abord, 21 vols déroutés. Plutôt que d'atterrir à Paris, les passagers ont posé le pied à Nantes, Lille ou Lyon. Et des avions ont tourné en rond dans le ciel sans pouvoir se poser d'après les radars de vol. La grêle et des inondations sur les chaussées ont bloqué l'autoroute A1 par exemple. Les vidéos amateurs se sont multipliées sur les réseaux sociaux. Dans toutes s'entendent des bourrasques violentes. Certaines montrent un courant d'eau boueuse dans un village du Rhône, des rivières de grêlons, des rues tapissées de blanc dans l'Yonne, des vignes hachées dans le Chablisien. Plusieurs viticulteurs déplorent une catastrophe et la pluie doit continuer de tomber aujourd'hui, notamment dans le nord-ouest du pays.
Impressionnant les coups de foudre hein, hier. Il y a cette image impressionnante de la foudre qui s'abat sur le paratonnerre hein, de la Tour Eiffel hier soir à Paris. Oui.
Bon, en même temps, il sert à ça. Paratonnerre.
Ah, c'est un grand
classique. Voilà, il est efficace, mais oui, il a beaucoup plu cette nuit en Bourgogne, dans les Hauts-de-France et sur Paris. Bon, c'était la douche froide pour les Parisiens. Aussi du côté de Dortmund, on va accueillir tout de suite Bastien au 32-16. Bastien qui nous appelle de Blois. Bonjour Bastien.
Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour Bastien.
Ouais, Bastien, levé tôt pour le boulot?
Ah oui, levé depuis 4h du matin.
Bah parfait, bah faut nous attendre un peu. Nous on arrive à 4h30 pour un premier journal et puis à 5h pour Charles Matin. Mais Bastien, bon, je vois que vous êtes supporter parisien, donc j'imagine que le réveil a été un peu plus douloureux que d'habitude ce matin.
Bah c'est frustrant surtout.
Ah oui, c'est sûr qu'il y avait la place là. Il y a eu cette action du double poteau, il y a aussi Dembélé qui a le but ouvert à un moment donné en deuxième mi-temps. Et puis bon, en même temps, Bastien, il y a eu aussi pas mal de casse du côté de Dortmund hein. Ça peut faire un partout comme 2-0 hier soir hein.
Ah bah c'est un match qui peut terminer sur un score de, je veux dire, de baby-foot quoi.
Oui.
Ça peut terminer à du 4-3, 5-3 comme c'est comment on peut être aussi chirurgical il y a 15 jours contre le Barça et louper autant hier soir quoi. C'est.
Alors pourquoi? Est-ce que c'est la faute des joueurs, de l'entraîneur? Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont particulièrement déçu hier soir, Bastien?
Bah moi je comprends toujours pas pourquoi il nous fait jouer Ruiz hein. Moi faut m'expliquer hein. Il nous ralentit le jeu, hier il arrivait pas à faire de bonnes passes de suite. Il nous fait rentrer Colomani mais ouais, je vais pas être tendre avec lui mais il est fantomatique depuis le retour de la Coupe du monde.
Alors que Ramos est resté sur le banc.
Voilà, et vous avez un gars comme Ramos qui est c'est le plus prolifique en ce moment en Europe selon les stats et tu ne le fais pas jouer.
Alors, bon, en attendant, Bastien, j'ai l'impression d'entendre, on a eu à peu près les mêmes débats le lendemain du match aller contre le Barça, et pourtant on sait comment ça s'est fini au retour. Donc, est-ce qu'on y croit pour mardi prochain?
Il faut y croire. Moi, je suis parisien, il faut y croire. Mais on n'aura pas du tout le même Dortmund. Ils vont venir avec le bus. Ils vont pas jouer au tio là.
C'est sûr.
Ils savent très bien ce qui va les attendre. Et comme on n'aime pas les équipes qui jouent avec un bloc bas, et ben moi, je suis sincèrement pas plus optimiste que ça, faut y croire, mais je pense que ça va être très très dur de se qualifier.
Et Bastien, est-ce qu'on y croit pour l'OM ce soir contre l'Atalanta?
ça va être dur, sincèrement. Ah. Moi, je regarde beaucoup le football italien et ça joue très très bien à l'Atalanta en ce moment.
Mais est-ce qu'on va soutenir l'OM ce soir, Bastien ?
Ah bah il faut, je veux dire pour pour l'indice UEFA et tout ça, il faut soutenir nos clubs français.
Mais oui. Et bah justement, tiens Bastien, bougez pas parce qu'on va prendre la direction de Marseille avec Philippe qui nous appelle lui aussi au 32-16, qui est levé de bonne heure. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour.
Comment ça va ce matin Philippe ?
Eh ben écoutez, ça va. On se prépare pour ce soir.
Ouais.
Avec l'ambiance et la ferveur et le courage des Marseillais, c'est vrai qu'on n'est pas les meilleurs cette année, mais ça devrait se faire.
Oui, il y a une grinta marseillaise. Vous serez au Vélodrome ce soir, Philippe ?
Voilà. Eh non, on ne peut pas acheter des billets à Marseille. C'est tout complet.
C'est plein à craquer. Ouais. Compliqué.
C'est l'enfer. Pour acheter un billet, c'est impossible.
Et Philippe, vous avez regardé le PSG hier soir ?
Alors, j'ai regardé le PSG. Je suis plus optimiste que le Parisien. Parce que hier soir, je ne sais pas si je vais le dire à l'antenne, C'est la première année, ils me font bander.
Ah bah d'accord, ok, c'est noté. Les joueurs parisiens.
C'est la première année, parce que non, je suis pas parisien, mais on enlève tous les ping-ping, tous les fadas qui sont partis là. Bon, vous avez gardé Mbappé, c'est normal.
Il y a un collectif en tout cas, c'est ça que vous voulez dire.
Voilà, c'est ça, c'est une vraie équipe. Ouais. Cette année, c'est une vraie équipe. Hein.
Oui. Ah donc Philippe, Marseillais, mais vous y croyez aux chances du PSG d'aller au bout cette année ?
Oui.
C'est fair play, Philippe.
Ça sera les deuxièmes tout le temps.
Ah oui, vous serez jamais les premiers, ça je vous l'accorde, Philippe. Bon, en tout cas, voilà. Ce soir, vous serez à fond derrière l'OM. Bah voilà, on vous souhaite une belle journée aujourd'hui. Philippe.
Eh bien, c'est mon anniversaire aujourd'hui.
Non.
En plus.
Bah, incroyable, ça vous fait joyeux anniversaire. Ah bah oui, oh là là, bah, je vois que la régie était au courant visiblement. Mais Philippe,
oui.
Et ça vous fait quel âge ?
66.
Oh là, un minot, Philippe.
C'est jeune encore.
Un tout jeune encore, bah, Philippe. Un très bel anniversaire. Vous savez quoi ? Bah, on va vous envoyer un cadeau. On va vous envoyer une coque pour smartphone RMC, Philippe. Et puis on vous souhaite un très bel anniversaire et une très belle victoire de l'OM ce soir. Ce sera le plus beau des cadeaux.
Merci à tous.
Ça nous fait très plaisir de vous entendre, Philippe, comme ça, de bon matin.
Et à Bastien aussi, on lui offre une petite coque.
Allez, Géraldine est généreuse. Bastien, vous aussi. Voilà. Une coque pour le Marseillais, une coque pour le Parisien. C'est comme ça, de bon matin, sur RMC. Bastien, bon courage aussi pour le boulot.
Ça va aller, vous inquiétez pas.
Allez, ciao, Bastien. Et puis, vous faites comme Bastien et Philippe, évidemment, ce matin. Bah, on souhaite aussi les anniversaires. On vous encourage si vous venez de commencer ou de terminer une nuit de boulot. Vous êtes peut-être tranquille à la maison. Vous l'entendez, on est tous ensemble. Ça nous fait toujours aussi plaisir de vous entendre au 32-16. Et puis, on n'oublie pas que le matin, on vous fait gagner.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé ?
Ouais, vous connaissez le principe, tous les matins on vous pose une question d'actu.
Très très dur ce matin, qui est l'adversaire de l'OM ce soir en demi-finale allée de l'Europa League ?
Bon bah vous avez la bonne réponse dans ce cas-là, vous envoyez tout de suite actu par SMS au 732-16.
Et vous pourrez gagner un radio réveil de la marque Muse pour vous réveiller tous les matins avec RMC.
Ah et puis pour vous aussi, on vous offrira la coque RMC pour smartphone. Si vous savez qui affronte l'OM ce soir en demi-finale allée de la Ligue Europa, vous envoyez actu par SMS 732-16.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Vous êtes bien réveillé sur RMC avec Muse. Toute une collection d'enceintes portables, de radios, casques, platines vinyle et plus encore à découvrir sur muse-europe.com.
RMC, police justice.
Et tous les matins, une histoire repérée, racontée par le service police-justice d'RMC. On retrouve Guillaume Biais. Bonjour Guillaume.
Bonjour Charles, bonjour Géraldine, bonjour à tous.
Bonjour.
Ce matin, Guillaume, vous nous parlez du maire de Barcarès, dans les Pyrénées-Orientales, qui vient d'être incarcéré dans une affaire qui tourne autour des chalets du village de Noël.
Oui, ces chalets en bois qui valent à Alain Ferrand, le maire d'hiver droite du Barcarès près de Perpignan, d'être en détention provisoire avec des charges assez lourdes qui pèsent sur lui. Le juge l'a mis en examen pour corruption par un élu, favoritisme, prise illégale d'intérêt, participation à une association de malfaiteurs, blanchiment et enfin transfert non déclaré de sommes provenant de l'étranger. Rien que ça. En fait, tout est allé très vite depuis dimanche matin quand Alain Ferrand, 64 ans, a été interpellé sur le tarmac de l'aéroport de Montpellier à sa descente d'avion. Il venait d'atterrir après un aller-retour en Afrique, au Congo-Brazzaville, où il possède une société. Sur lui, au moment de son arrestation, il avait plusieurs dizaines de milliers d'euros d'origine douteuse d'après la justice. Mais au-delà de ça, c'est bien la gestion des marchés publics du village de Noël qui intéresse les les magistrats. L'enquête porte sur ces fameux chalets de Noël en bois depuis 2012. Ça représenterait 9 millions d'euros de marché public, exclusivement attribués chaque année à la même société, détenue par un couple proche d'Alain Ferrand. Donc, après 48 heures de garde à vue, le maire du Barcarès a été mis en examen et incarcéré. Un scandale, dénonce son avocat, qui va faire appel dès aujourd'hui.
Mais Guillaume, cette affaire judiciaire pour Alain Ferrand, c'est loin d'être la première, hein.
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Cela fait une trentaine d'années déjà que son nom apparaît dans différentes affaires, à tel point que certains le surnomment le Balkany du Sud. Pas sûr que l'un et l'autre, d'ailleurs, n'apprécient ce surnom. Sa première condamnation définitive remonte à 99. 3 ans avec sursis et d'inéligibilité pour une affaire de casino. S'en suivront d'autres condamnations, prise illégale d'intérêt, fraude fiscale ou encore faux usage de faux. Il est déjà passé plusieurs fois par la case prison. Il doit encore être jugé l'an prochain dans un autre volet de ces fameux marchés de Noël de la ville. Enfin, jusqu'à présent, tout ça n'a pas entaché son parcours politique puisque depuis 95, avec son ex-femme, ils se succèdent l'un et l'autre comme maire du Barcarès au gré de leurs condamnations respectives. Les électeurs ne lui en tiennent visiblement pas rigueur puisqu'aux dernières municipales, Alain Ferrand a été largement réélu avec 60% des voix dès le premier tour.
Merci Guillaume. Le récit de Guillaume Biet, chef du service police-justice d'RMC.
À suivre dans Charles Matin sur RMC.
Où trouver les milliards d'euros d'économie? Bruno Le Maire, invité du face-à-face tout à l'heure, 8h30 sur RMC et BFM TV. Mais dès maintenant, c'est vous qui nous dites au 32-16 où vous pensez que le Bercy devrait faire des économies. Est-ce que c'est sur les budgets de la santé, de l'éducation, l'assurance chômage aussi? N'hésitez pas, le 32-16 est ouvert, vous prenez la parole tout de suite. Et puis, dans un instant, avec Solène Leroux, ce sera RMC qui s'engage avec vous. Solène Leroux qui vient en aide à Cyril et Cécile l'été dernier. Ce couple et leurs enfants ont passé les pires vacances de leur vie, vous allez l'entendre.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
Il est 5h18, vous êtes bien sur RMC. Bon réveil à tous.
Vous avez un problème? RMC a la solution. RMC s'engage avec vous.
Et c'est Solène Leroux qui nous rejoint ce matin. Bonjour Solène.
Bonjour Charles, bonjour Géraldine.
Et Solène, ce matin, vous venez en aide à des touristes qui ont, on peut le dire, passé les pires vacances de leur vie.
Août 2023, Argelès-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales, Cécile et Cyril louent un mobilhome dans un camping avec leurs 3 enfants. Une semaine après leur arrivée, il fait beau, ils partent en balade à pied en fin de journée.
On s'est dit juste, on part à la plage vite fait, on prend un bain, on rentre. On avait maillot de bain, tongs, serviette de plage.
Alors, le camping est en flammes. Ils sont contraints de dormir à la Belle Étoile sur des transats et en maillot de bain dans un autre camping qui les accueille. 480 hectares sont partis en fumée cette nuit-là. 3000 personnes évacuées, un pompier blessé.
C'est terrible et on imagine au passage que les vacanciers ont tout perdu.
Vêtements, ordinateurs, appareils photo, il y en a pour plus de 10 000 euros. Cécile a porté plainte, déclaré les pertes au camping pour être indemnisée. Et depuis 9 mois, rien. La banque leur a prêté de l'argent pour faire face, mais les conséquences sont aussi psychologiques.
J'ai l'un de mes enfants qui a fait un syndrome post-traumatique suite à ça. Il y avait beaucoup d'objets qui avaient une valeur sentimentale, qui n'avaient pas de prix. Et le fait de clore ce dossier, ça pourrait aussi permettre d'avancer sur le deuil de ce qu'on a perdu sentimentalement parlant, quoi.
Et comme Cécile, 180 familles qui logeaient au camping ont été sinistrées.
Mais alors, comment c'est censé se passer dans ces cas-là pour indemniser ces familles?
Soit vous avez l'option villégiature via votre assurance, soit c'est celle du lieu de vacances qui indemnise. Notre reporter Amine Lafchin a donc demandé au camping, après des mois de silence, ils ont répondu à Cécile que rien n'est prévu pour les clients dans leur contrat. On a expliqué tout ça à la famille, ils ont rappelé leur assureur. Dans un premier temps, ils leur avaient indiqué qu'ils n'étaient pas couverts. Et puis, on l'a appris hier soir, finalement, après un énième coup de fil, tout roule, ils ont la bonne option.
Mais c'est toujours simple avec les assurances, visiblement, mais bon, tout est bien qui finit bien.
Eh bien, presque. Ils ont transmis tous les documents nécessaires. Un expert doit passer chez eux dans 3 semaines et on espère qu'ils seront très vite remboursés. On va évidemment suivre tout ça avec attention.
Oui, évidemment, on compte sur vous, parce que ça fait quand même près d'un an maintenant que cette famille attend. Et vous suivrez ce dossier comme tous les autres, Solène Leroux, avec toute l'équipe autour d'Amélie Rosy, qu'on rappelle d'ailleurs l'adresse pour vous contacter, comme l'ont fait Cécile et Cyril. Il suffit d'envoyer un mail à l'adresse RMC avec vous @rmc.fr. Allez, on part tout de suite au 32-16.
RMC, à vous de nous dire.
Je tends la main à tous les parlementaires de l'opposition qui ont la volonté, comme nous, de revenir sous les 3% de déficit public, car c'est une question de souveraineté et de liberté. Et laissons de côté, une bonne fois pour toutes, les querelles politiques qui ne sont pas dans l'intérêt de la France.
Voilà, toutes les idées sont les bienvenues pour faire des économies. Vous entendez le discours de Bruno Le Maire devant les parlementaires, le ministre de l'économie et des finances qui sera ce matin sur RMC et BFM TV. Hein, Bruno Le Maire, invité du face-à-face dès 8h30, il répondra à toutes les questions d'Apolline et notamment là. Grande question du moment, où trouver les milliards d'euros d'économies supplémentaires pour cette année ?
Alors on sait déjà, l'assurance chômage va être réformée d'ici le 1er juillet. Le budget de l'éducation nationale, lui, est raboté de près de 700 millions d'euros. Pas touche, en revanche, aux heures sup des profs. Le gouvernement a dû rétropédaler hier face au tollé.
Oui, il va sûrement y avoir des coupes budgétaires un peu partout. Oui, assurance chômage, éducation, peut-être dans le domaine de la santé, de l'environnement, le logement aussi, la rénovation énergétique. Bref, le gouvernement qui traque le moins euros pour arriver à 20 milliards d'euros d'économies en tout. Mais on vous pose la question ce matin, justement, au 32-16, où trouver ces milliards d'euros ? On va accueillir Philippe, qui nous appelle de Saône-et-Loire, c'est ça ? Bonjour Philippe.
Oui, bonjour.
Bonjour Philippe.
Bah d'abord, comment ça va ce matin, Philippe ?
Ah, très bien, sous la pluie.
Sous la pluie, vous êtes où précisément en Saône-et-Loire ?
Alors moi, je suis de la Chapelle de Guinchay, à côté de Mâcon.
Ok, du côté de Mâcon, la Chapelle de Guinchay. Je ne connaissais pas la commune, mais je vois à peu près le coin du côté de Mâcon. Philippe, et qu'est-ce que vous faites dans la ville là, pour être dehors sous la pluie à cette heure-ci ?
Je suis dans la tôlerie. Je suis plieur dans une tôlerie industrielle.
Ok, et donc là, vous attaquez la journée ou vous terminez une nuit de boulot ?
Non, j'attaque à 6h.
Vous attaquez à 6h. Oh là, on ne va pas vous mettre en retard, mais alors,
on a le temps encore.
Vous avez un peu de temps pour partager un café avec nous ce matin et donc nous dire, Philippe, vous, ce que vous en pensez. Où le gouvernement doit-il chercher ces milliards d'euros d'économies ?
Eh bien, à force de taper dans les petits porte-monnaies d'en bas, ben pourquoi pas taper dans le porte-monnaie de nos députés qui se sont permis de s'augmenter il y a si peu de temps de 300 euros mensuels ? Quand ils ne se présentent pas à l'hémicycle, tout simplement, eh ben on leur met, ils sont amendables. Ils sont amendables s'ils ne représentent pas à l'hémicycle. Alors, donc à chaque fois qu'ils ne sont pas présentés, on leur enlève un temps de leur enveloppe.
J'entends, Philippe.
On ne fera pas 10 milliards avec ça. Hein,
oui,
on commence oui. par eux et puis on va plus haut. Hein, parce que je pense que là, je parle de l'hémicycle parce que c'est ce qu'on voit le plus souvent à la télé. Que c'est tout le temps vide, enfin il n'y a pas assez de députés qui représentent, qui nous représentent nous petits justement, mais c'est tellement facile de nous taper à nous. Mais par exemple, pourquoi on les a augmentés de 300 euros sachant qu'on a des problèmes en France et qu'il y a de l'argent à mettre de côté?
C'est le côté symbolique, en tout cas, de montrer l'exemple. Quand on demande des économies, on commence par soi-même.
Ouais,
c'est ce que j'entends et c'est ce que vous diriez tout à l'heure si vous aviez le ministre en face de vous, si Bruno Le Maire était face à vous.
On vient nous taper nous dans nos porte-monnaies. Enfin, je parle pas pour moi, je touche du bois parce que je travaille, j'ai un bon salaire. Mais je parle pour nos petits, pour ceux qui ont des difficultés, qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Pour l'éducation nationale, qui devient de plus en plus médiocre. Je suis désolé pour tous nos professeurs. Mais voilà, j'arrive pas à comprendre qu'on aille taper dans des trucs importants en France. Et par contre, eux se permettent, il y a encore si peu de temps, pendant qu'il y avait des agriculteurs qui se battaient parce qu'ils ont du mal à vivre, de s'augmenter eux de 300 euros. Bah, déjà, avant de s'augmenter eux, ils devraient penser qu'il faut faire des économies.
C'est tout le problème, Philippe, voilà. Parce que quand on fait la liste des secteurs, on voit que des secteurs qui souffrent, en fait. Vous parlez de l'éducation. On a du mal à voir comment elle pourrait faire mieux avec voilà. moins de moyens. Je pense à la santé, l'hôpital public, l'agriculture, vous avez raison.
Le peuple a du mal, mais eux, je suis désolé, je sais triste de te dire ça parce que j'adore la France, j'adore mon pays, j'adore mon drapeau tricolore. Mais eux se permettent de s'enrichir, entre guillemets, je précise, attention, c'est vaste mes mots, mais eux se permettent de s'augmenter quand nous, on a besoin d'aide.
Eh ben, c'est important de le dire aussi clairement ce matin, Philippe. Merci d'être passé le dire au 32-16. On va vous souhaiter bon courage pour le boulot, mais on verra tout à l'heure les réponses de Bruno Le Maire. S'il a les nouvelles pistes d'économie, les nouvelles mesures à dévoiler ce matin sur RMC et BFM TV. Et puis, ça remonte beaucoup, dans vos messages sur Direct Studio. À travers vous aussi, Philippe, au 32-16, cette question de l'exemplarité sur les économies. Est-ce que c'est pas, du côté des coûts de fonctionnement de l'État, plus globalement, qu'il faut raboter? Merci, Philippe, d'être passé ce matin par le 32-16. Je vous rappelle donc le rendez-vous à 8h30 tout à l'heure, le face-à-face. Et puis tiens, puisqu'on parle du face-à-face, je vous annonce, c'est la première fois je pense que je vous l'annonce, oui, on est les premiers à vous l'annoncer ce matin, un nouveau rendez-vous, une nouvelle formule du face-à-face qui débute lundi prochain, un nouveau rendez-vous, ça s'appelle le face-à-face et vous. Ça sera donc sur RMC et BFM TV de 8h10 à 9h, des personnalités politiques de premier plan qui viennent répondre à vos questions, à vous, au 32-16 et évidemment aux questions d'Apolline. La première invitée ce lundi, ce sera Marine Le Pen. Notez bien le rendez-vous dès 8h10 jusqu'à 9h, le face-à-face et vous. vous. Toutes vos questions, vous pouvez déjà les poser à Marine Le Pen, la présidente du groupe RN à l'Assemblée. Il y a une adresse mail, vos questions au pluriel @rmc.fr ou en appelant le 3216. Vous pourrez directement poser vos questions à Marine Le Pen lundi matin dès 8h10 sur RMC et BFM TV.
RMC, Charles Matin.
À suivre sur RMC, le journal de 5h30 maintenant, dans quelques minutes, avec à la une ces orages qui ont fait d'énormes dégâts cette nuit en Ile-de-France, en Bourgogne aussi. Vous entendrez dans le journal Isabelle, viticultrice, qui craint d'avoir tout perdu dans ses vignes du côté de la Bourgogne cette nuit. Et puis tout de suite, votre pouvoir d'achat, la solution conso avec Géraldine.
Oui, je vais vous parler des piles, vous expliquer comment bien les choisir pour faire le plus d'économies.
RMC, 5h-6h30, Charles Matin,
Charles Magnin.
Et comme promis, comme chaque matin, juste avant 5h30, Géraldine vous fait faire des économies.
RMC,
la solution conso.
Et ce matin, Géraldine, tu t'intéresses à un petit objet qu'on a tous chez nous. La pile.
Oui, chaque année, il y a à peu près 1,5 milliard de piles qui sont mises sur le marché français. Un petit objet qu'on trouve à tous les prix. Alors, premier constat déjà, le prix n'est pas du tout un gage de durée de vie. C'est un ingénieur qui a fait le test sur la chaîne YouTube, le bricolage, c'est cool.
J'étais persuadé que payer les piles de marque les plus chères, ça durait plus longtemps.
Eh ben non, un ingénieur a fait le test et avec un échantillon de 18 piles différentes. Verdict, elles avaient à peu près toute la même capacité énergétique. Donc forcément, le rapport qualité-prix était bien meilleur pour les piles premier prix. Donc si vous hésiter au moment de l'achat, ça sert à rien de prendre une grande marque chère, les premiers prix font très bien l'affaire.
Alors là, tu nous parles des piles jetables qu'on connaît tous, mais tu as voulu faire le match entre piles jetables et piles rechargeables. Alors là, qui l'emporte ?
Alors ça dépend. Il y a 9 piles sur 10 achetées en France qui sont des piles jetables. Et pourtant, dans la plupart des cas, ce sont les piles rechargeables qui sont les plus rentables. C'est vrai qu'à l'achat, elles coûtent au moins 2 fois plus cher que les jetables, sans compter le chargeur. Mais vous allez pouvoir les recharger en moyenne 300 fois. Donc votre achat est quand même très vite rentabilisé. L'UFC Que Choisir a fait le test avec une voiture télécommandée pour enfants qui a besoin de 4 piles. Je suis sûre que tu connais ça, Charles.
Chercher de la pile le 25 décembre après le déballage des cadeaux.
Et en l'utilisant une heure par jour pendant un mois, ça a coûté 612 € de piles jetables contre 21 € de piles rechargeables. Autre différence pour les piles rechargeables, le fabricant a l'obligation de mentionner sa capacité sur l'emballage et selon l'UFC Que Choisir, les capacités annoncées sont bien respectées. Il faut aussi savoir que les piles jetables ne supportent pas le froid contrairement aux rechargeables.
Donc le match est plié, là, les rechargeables l'emportent haut la main.
Oui, il y a juste quelques cas où les jetables sont mieux, c'est tout ce qui consomme très très peu comme le détecteur de fumée, la télécommande de la télé ou encore les calculatrices. Là, vous pouvez prendre du jetable, sinon les rechargeables, ça reste quand même le top.
Les bons conseils, les bonnes astuces, conso de Géraldine tous les matins en direct sur RMC et quand vous voulez sur l'appli en podcast.
Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024.
Et tout de suite, on se fait plaisir. Le meilleur d'Arnaud Demange. Tiens, souvenez-vous, il y a quelques semaines, on apprenait que le grêlé, le célèbre tueur en série, avait participé à un jeu télé.
Le gars était caché à la télé. Alors, c'est pas le seul. Gérard Miller aussi était caché sur les plateaux de France Télé pendant 25 ans, PPDA, tout ça. Si ça se trouve, le père Fouras, c'est Xavier Dupont de Ligonnès, qui est presque de vieux. Ça fait 20 ans qu'il est caché à la télé. Il fait tous les jeux. Il y a Nagui qui va le recevoir à N'oubliez pas les paroles. Et on est avec Xavier. Xavier qui va nous chanter « Où t'es, papa, où t'es ? Où t'es, papa, où t'es ?»
Et on retrouve Arnaud tout à l'heure en direct dans Apolline Matin à 5h30, Géraldine. La météo du jour et la vigilance sur les orages qui est levée. Pour l'instant, il ne reste que le Calvados ce matin.
C'est ça. Alors, conséquence des orages, le Calvados qui est en vigilance orange pour les crues. Pas d'orage a priori pour aujourd'hui, mais encore de la pluie sur une large moitié à est. Ça va être plus calme vers l'Atlantique. Là, on aura quand même des éclaircies avec un tout petit risque d'averse. Les températures ont bien baissé après le passage des pluies, des orages. Il fera 12 à Lyon cet après-midi, 14 à Paris comme à Marseille, 16 à Bordeaux, jusqu'à 19 à Strasbourg.
La météo sur RMC avec Sonelia. 30 campings villages vacances pour vos plus belles expériences. En France et en Europe.
RMC 5h30.
RMC, Charles Matin.
Bon réveil à tous, bon courage si vous êtes déjà sur la route, déjà au boulot. On est tous ensemble, vous le savez, le matin sur RMC pour vous informer, votre journal en direct avec Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Inondations, grêle, aéroport à l'arrêt, de violents orages ont frappé l'Île-de-France et Lyon hier où les vignobles du Chablisien ont été ravagés. Ils réclament des primes pour les Jeux Olympiques. Les syndicats de la SNCF en Île-de-France lancent un préavis de grève pour le 21 mai prochain. Une mobilisation qui pourrait impacter 3 millions de voyageurs français. franciliens. Et puis le PSG encore en vie ce matin, malgré sa défaite hier soir à Dortmund 1-0 en demi-finale de Ligue des Champions. Les Parisiens devront l'emporter la semaine prochaine au Parc des Princes.
La vigilance aux orages est donc levée ce matin.
De violents orages qui ont frappé hier soir Lyon et l'Île-de-France. Plus de 23 000 impacts de foudre ont été enregistrés à l'est de Paris. Il est tombé l'équivalent de 2 semaines de pluie en quelques heures seulement, avec pour conséquence des vols déroutés dans les deux principaux aéroports de la capitale, Orly et Roissy, où le terminal 2 a été inondé. De la pluie, mais aussi de la grêle, causant de nombreux dégâts dans la région de Chablis, au domaine des Quatre Chemins à Fontenay près Chablis. Une partie des vignes a été hachée. Isabelle, viticultrice, a tout perdu.
J'ai jamais vu une grêle comme ça sur le sol tout blanc. Puis bien sûr, les vignes impactées, hachées. La vendange, je l'ai faite. Maintenant, il va falloir passer dans les vignes pour essayer de sauver ce qui reste, pour avoir quelque chose à tailler l'année prochaine et pour pouvoir faire une vendange 2025. On ne parle plus de la 2024. Moi, je me suis installée depuis 2016. Et depuis 2016, on a de la grêle, du gel, de la sécheresse. Et ça devient un peu récurrent et lassant. Il faut bien avancer de toute façon.
Des agriculteurs attendus à l'Elysée ce matin, les principaux syndicats du secteur vont rencontrer Emmanuel Macron pour une réunion de travail 3 mois après une mobilisation massive des agriculteurs qui ne décolèrent pas et attendent toujours de nombreuses réponses de l'exécutif. Entre 120 et 210 000 personnes dans les rues hier à l'occasion des manifestations du 1er mai, c'est en ce jour de fête du travail que les syndicats de cheminots ont lancé un appel à la grève pour le 21 mai en Île-de-France. Information que vous révèle RMC, sont concernés les RER et Transiliens, soit 3 millions de voyageurs potentiels. Victor Jeunin, les syndicats réclament entre autres de meilleures compensations pour les Jeux de Paris.
Les discussions avec la direction de la SNCF durent depuis plusieurs mois, mais elles n'avancent pas assez vite, estime Fabien Villedieu, secrétaire fédéral Sudrail.
Mieux vaut qu'on négocie au mois de mai qu'au mois de juillet. Voilà. Donc il y a la volonté d'avancer, mais pour l'instant, il faut que tout le monde s'y retrouve. Et aujourd'hui, les cheminotes et les cheminots ne s'y retrouvent pas en termes de compensation et notamment les compensations financières.
La direction a notamment proposé aux cheminots une prime de 50 euros brut par jour travaillé pendant les JO, mais les syndicats souhaitent obtenir en plus une prime fixe de plus de 1000 euros comme à la RATP, explique Axel Personne, responsable CGT.
C'est sûr que nous, on va l'utiliser comme base minimale. En tout cas, c'est comme ça que les collègues en discutent. Ils disent, bah oui, il faut à minima la même chose que ce que nos camarades de la RATP ont obtenu. Et ça fonctionne comme ça, en fait, dans le mouvement ouvrier. On essaie de s'inspirer de ce qu'il y a de meilleur chez l'un pour l'obtenir chez nous. Et ça, JO ou pas, ça, c'est une démarche et une boussole qui reste toujours fixée sur le même cap.
La direction de la SNCF affirme que le calendrier des négociations avance comme prévu.
La première nuit sous couvre-feu à Nice pour les mineurs de moins de 13 ans, un arrêté municipal visant à lutter contre la délinquance sur l'ensemble de la période estivale, entre 23h et 6h du matin sur l'ensemble des points d'attroupement de la ville. Un plan de lutte contre la prostitution présenté ce jeudi par le gouvernement, 8 ans après la loi pénalisant les clients, la ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Berger, entend renforcer son application. Cela passe par la protection des mineurs, mais aussi plus de fermeté face aux nouvelles formes de prostitution sur Internet. Pour RMC, Marion Dubreuil, vous avez recueilli le témoignage d'une jeune femme survivante de la prostitution entrée par le biais du numérique.
Alexine, 28 ans, est tombée dans la prostitution quand elle était étudiante pour payer son loyer.
Quand j'avais 19 ans, je me suis tournée vers un site d'annonces et il y avait plein d'annonces de prostitution. Je m'étais dit que c'est juste coucher avec quelqu'un, mais c'est payé pour ça. Mais j'en suis ressortie traumatisée et même la première fois, je suis partie en pleurant.
Ça a duré 2 ans. Une IVG, une maladie sexuellement transmissible et le mouvement MeToo ont agi comme des électrochocs sur la jeune femme.
Quand débarrasse de tout ça. On voit à quel point on a été maltraité, exploité. On n'est pas dans un film, ça n'arrive pas à quelqu'un d'autre.
Alexine témoigne pour lever le tabou sur la prostitution et ses conséquences.
Mon sommeil qui a été impacté, la dépression longue durée, se battre contre des infections, des maladies chroniques.
Aujourd'hui, elle espère que le gouvernement va augmenter l'aide financière à la sortie de la prostitution de 343 euros par mois.
Ça ne nous permet pas de s'émanciper et de sortir de la prostitution. C'est un parcours de combattante.
Seules 1200 personnes ont bénéficié l'an dernier d'un parcours de sortie de la prostitution.
Une tonne 8 de cocaïne saisie record hier au large de Saint-Martin dans les Antilles françaises. Plusieurs dizaines de ballots ont été retrouvés à bord d'un bateau amarré dans l'île pour un montant estimé de 35 millions d'euros. Une enquête est ouverte afin d'identifier les moyens de fuite des trafiquants. Le PSG en ballotage défavorable. Battu à Dortmund hier soir en demi-finale de Ligue des Champions, les Parisiens s'inclinent 1-0 mais conservent leur chance de qualification pour la finale. Pour cela, il faudra s'imposer mardi prochain au Parc des Princes. Arthur Perrault, l'espoir est permis.
Oui, dès le coup de sifflet final, Kylian Mbappé apparaît marqué, les mains sur les hanches, le regard dans le vide. L'entraîneur Luis Enrique a le poing serré vers les supporters et se projette déjà sur le match retour.
Je suis sûr que c'est la première fois que le Borussia va jouer le match retour dans cette compétition à l'extérieur. Pour nous, ce sera la première fois. Nous n'avons plus rien à perdre. On va aller chercher ce résultat.
Paris a des raisons d'y croire. En quart de finale, il a déjà rattrapé un but de retard contre Barcelone. Au micro de Canal+, le défenseur Achraf Hakimi sait que le public du Parc des Princes fera la différence.
Je pense qu'on a dominé tout le match. Je pense qu'à la maison, c'est différent. Avec notre supporter, à notre stade, l'ambiance va être différente. C'est sûr. Je suis plein de confiance à cette équipe et les occasions qu'on a trouvées aujourd'hui. Le match de retour, il va rentrer.
Le Paris Saint-Germain est encore en vie et se retrouve à 90 minutes d'atteindre la deuxième finale européenne de son histoire après celle de 2020.
Est-ce que vous y croyez, Charles ? Vous avez envie ? Enfin, vous avez envie, oui, mais vous y croyez ?
Oui, comme vous Thibaut.
Bien sûr, moi je crois à l'OM ce soir en Ligue Europa, opposé à l'Atalanta Bergame, journée spéciale sur RMC ce jeudi en direct du Vélodrome dès 21h, suivi de l'after et de la libre antenne jusqu'à 1h du matin. Et puis tiens, l'attaquant de Metz, Georges Mikotadze à New York. Alors non, il ne s'agit pas d'un transfert, mais d'un but du joueur des Grenats diffusé sur l'un des écrans géants de Times Square à l'origine de cette initiative qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Un jeune fan messin de 19 ans qui a payé les $40 nécessaires pour s'offrir la diffusion de cette vidéo sur l'écran géant, de l'argent bien investi, écrit-il sur X.
Bah oui, c'est pas bête, ça coûte à peine $40.
Vous pouvez, si vous avez envie de faire une déclaration ou quoi
là,
que ce soit,
par exemple,
vous pouvez...
là, si je fais par exemple là une vidéo de Thibaut Texer en studio sur RMC.
Exactement. Bon,
d'habitude, je la mets sur Instagram et c'est très sympa et nos auditeurs sont ravis. Tiens, ben voilà, il y a Pierre Rigaud, il y a Géraldine Mori, il y a beaucoup de monde dans ce studio, il y a Jordan Olivier qui rentre, voilà, les coulisses, hop.
Vous payez $40.
Et hop, Thibaut Texer à Times Square.
On apparaît à Times Square. Incroyable.
Incroyable. Ben voilà, les tips, les astuces de Thibaut Texer. Et puis, tiens, autre astuce, autre conseil, cette fois pour les courses, ce sera à Chantilly aujourd'hui.
20h25 sur RMC Découverte, le 16 Star Rock est le favori de la Dream Team, c'est l'outsider, c'est le 3, Shining Ocean, le 16 et le 3.
C'était le journal de Thibaut Texer qu'on retrouve tout à l'heure à 6h30. Et un jour sur Times Square, évidemment, c'est la promesse.
J'espère, Charles.
Désormais. Et puis tiens, Géraldine, on va aller faire un tour, non pas avec Times Square, mais encore mieux, encore plus célèbre, Direct Studio, l'appli RMC, là où on retrouve tous les leftos et tous vos messages.
Oui, tiens, il y a Aurélien qui te fait un coucou de Melbourne en Australie, qui est déçu de la prestation
Aurélien
de Paris. Il espère que Marseille va gagner, tiens, ce soir.
Mais oui, tous derrière l'OM ce soir.
Pour Ibrahim, il te souhaite bien du courage, Charles, faut garder espoir, il y a le match retour. Et puis, vous êtes nombreux aussi à avoir des solutions pour trouver des milliards pour le gouvernement. Pour
Bruno, aider Le Maire, 8h30.
Nicolas qui nous dit il faut supprimer les départements, réduire le personnel dans les collectivités territoriales. Vincent nous dit qu'il faut faire des économies sur l'administration et l'administratif. Vous avez plein de solutions.
Évidemment, et vous n'hésitez pas à les partager ce matin sur Direct Studio au 32-16. Et je vous rappelle l'événement Bruno Le Maire dans le face-à-face tout à l'heure, 8h30 face à Apolline. Et dès maintenant avec vous au 32-16, il est 5h39.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé ?
Et tous les matins, vous les leftos, vous qui écoutez toute l'info sur RMC, on vous offre des cadeaux. Mais pour ça, il faut répondre à notre question d'actu.
Je sais que vous avez la réponse. Qui est l'adversaire de l'OM ce soir en demi-finale aller de l'Europa League ?
Ah oui, vous avez sûrement la bonne réponse. Dans ce cas-là, vous envoyez tout de suite actu par SMS au 732-16.
Si vous êtes tiré au sort, vous pourrez gagner un super radio réveil de la marque Muse pour vous réveiller avec RMC.
Eh ben, soyez rapide. Vous envoyez tout de suite actu par SMS au 732-16 et on va vous gâter tout à l'heure en direct à 6h20 sur RMC. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi. Les indiscrets RMC.
Et chaque matin, RMC vous emmène dans les coulisses de l'actu. Ce matin, on retrouve Mao Bécard-Granier. Bonjour Mao.
Bonjour Charles, bonjour Géraldine.
Alors tout à l'heure, à 8h30, Apolline reçoit Bruno Le Maire, le face-à-face sur RMC et BFM TV. Le ministre de l'économie et des finances, celui qui, on le sait, veut faire au moins 10 milliards d'euros d'économies. Et parmi ces 10 milliards, Bercy vise 700 millions d'euros d'économies du côté du budget de l'éducation nationale. En début de semaine, les recteurs ont annoncé des coupes sur les heures supplémentaires pour la fin de l'année. Mais finalement, hier, en coulisses, Mao, le ministère a rétropédalé.
Tout s'est joué dans la journée d'hier. Les syndicats de directeurs et d'enseignants sont montés au créneau
mots pour dénoncer cette mesure prévue par l'éducation nationale. Concrètement, le ministère voulait supprimer les heures dédiées par exemple aux sorties scolaires, aux révisions des examens ou encore à des projets pédagogiques. Des messages sur Pronote avaient déjà été envoyés pour avertir de la fin de certaines activités, une manière de faire près de 100 millions d'euros d'économies. Mais les syndicats ont dénoncé une mesure inacceptable sur le fond comme sur la forme, un mépris pour le travail fait dans les établissements et une décision prise sans aucune concertation. Dans l'après-midi donc, le ministère a finalement communiqué. Toutes les académies auront les moyens nécessaires pour mener à bien leur mission jusqu'à la fin de l'année scolaire.
Donc pas d'heures annulées pour les profs, pour les élèves, mais Mao, comment en coulisses le ministère justifie ce volte-face en quelques heures ?
Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis plusieurs semaines, le ministère de l'Éducation nationale travaille d'arrache-pied pour trouver un moyen de faire des économies sous la pression de Bercy, mais sans dialoguer suffisamment avec Matignon. Un cadre de la majorité explique qu'il n'y a aucune coordination entre le ministère de l'Éducation nationale et le Premier ministre, preuve supplémentaire du dialogue compliqué entre Nicole Belloubet et Gabriel Attal, ce qui explique ce rétropédalage et ses failles dans la communication. La consigne a bien été donnée au recteur de suspendre les heures supplémentaires, mais derrière, en coulisses, le ministère tentait toujours de trouver des solutions pour éviter qu'on en arrive là. Trop tard, les syndicats, tout comme les parents d'élèves, dénoncent un couac. On n'en peut plus de ces allers-retours et de ce manque de concertation, me dit le président de la Fédération des parents d'élèves.
On en saura peut-être plus tout à l'heure avec Bruno Le Maire dans le face-à-face à 8h30. Merci Mao pour ces indiscrets. Mao Bécard-Granier du service éducation des
RMC, Charles Matin.
Et à 6h20, votre bande est là. Elle est réunie au complet. La triplette magique de l'info le matin, c'est le sport avec Jordan Olivier.
Bonjour Charles. Aujourd'hui, on va parler plutôt de Marseille qui poursuit son rêve européen. Ce soir, donc, face à l'Atalanta en Bergame.
Et puis, on va monter en voiture avec Anthony Morel.
Oui, absolument. Vous connaissez tous Tesla, évidemment. Est-ce que vous connaissez son équivalent chinois ? BYD.
Ah,
ouais,
la Tesla chinoise.
Exactement, avec des modèles absolument incroyables. Je vais vous présenter quelques innovations assez folles.
Que vaut la Tesla chinoise ? Réponse dans un instant. Et puis il y aura aussi le bonus avec Géraldine.
Ah, je vais vous parler du rappeur Soprano, mais pas pour sa musique, pour autre chose.
Et puis, bah tiens, Soprano, le Marseillais, l'OM qui joue ce soir. Je vois Jean-Marie qui nous appelle au 32-16 depuis la Haute-Corse. Jean-Marie, supporter de l'OM, mais qui a regardé le PSG hier soir. Tiens, on écoute Jean-Marie tout de suite au 32-16.
RMC. Charles Matin.
Charles Magnin.
À 5h43, toute la bande du matin est là. Anthony Morel qui va nous présenter la Tesla chinoise. On va être évidemment à Marseille dans la Story Sport avec Jordan Olivier. À Marseille aussi dans le bonus avec Soprano et Géraldine. Mais tout de suite, on part en Haute-Corse avec Jean-Marie qui nous appelle au 32-16. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Charles, bonjour à toute l'équipe.
Salut Jean-Marie.
Wow, comment ça va ?
Ça va, ça va. Alors j'aurais deux points à évoquer par rapport au match du PSG hier soir,
ouais.
Sur l'aspect stratégique. On jouait hier à l'extérieur, avec en Corse, je suis supporter de toutes les équipes françaises qui se déplacent dans les coupes européennes, et j'ai connu l'épopée européenne du Sporting de Bastia.
Ah, oui.
Et nous étions une petite équipe, et qui a tenu tête aux plus grosses équipes, et oui. C'est ça que je voulais annoncer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque j'ai vu jouer le PSG, on jouait à l'extérieur. On a été attiré. On est tombé dans le piège de dominer cette équipe-là, qui a fait que les espaces sont resserrés devant la surface de réparation. Mmh. C'est vrai que nous avons eu de grosses occasions parce que nous avons une équipe très technique au PSG. Mais l'intervention pour mettre les buts était à la seconde près. Vu que nous étions constamment attirés et que il y avait un mur, c'était la guerre des tranchées devant la défense de Dortmund. Et c'était impossible de marquer. C'était un peu le jeu. J'ai reconnu le jeu du Sporting de Bastia.
Jean-Marie, c'était pas impossible. Il y a eu des poteaux, il y a eu des occasions, il y a eu aussi pour Dortmund. Il y aurait pu y avoir 2-0 pour Dortmund à la fin.
La densité de défenseurs était insurmontable du Dortmund. Vous comprenez ce que je veux dire ? Chez nous, nous étions attirés, nous avons laissé des espaces. En 3 touches de balle, le Dortmund est monté, marqué un but. Mmh. Et systématiquement, c'était comme ça. La mentalité de Paris Saint-Germain au retour, c'est la guerre des tranchées, ils se mettent des barbelés, le catenaccio.
C'est-à-dire que. On y croit. Jean-Marie, est-ce que le PSG va se qualifier là, mardi prochain ?
Bien sûr. Si demain ils écoutent la stratégie de Luis Enrique, il a drivé tout le match, il criait, il disait à l'équipe de monter et de descendre. Lorsque vous voyez qu'une équipe de ce type-là, si c'est l'entrée de leur dire de monter ou de descendre, de combler les espaces, c'est très grave. Il faut qu'ils corrigent cet aspect-là pour justement avoir toutes leurs chances de gagner. Et moi, je les vois gagnants. techniquement, ils sont largement supérieurs à Dortmund.
Bon, Jean-Marie,
mais il faut qu'ils jouent.
On entend voilà votre optimisme pour le match retour si les joueurs écoutent bien les consignes de leur coach, Jean-Marie. Ça, c'est pour le PSG mardi prochain. Mais il y a une autre urgence, c'est dès ce soir. L'OM qui joue.
Alors, vous voyez, par exemple, l'OM, c'est une équipe qui est inférieure à Paris. Mais il y a cette hargne, il y a cette barbelée qui manquait au PSG hier soir. C'est-à-dire qu'au stade de l'OM, bon, je pense qu'on le retrouvera au stade du Parc des Princes la semaine prochaine pour Paris, mais l'OM a une ferveur et une hargne qui est incommensurable.
Ah, c'est sûr qu'il y a une grinta marseillaise, et puis j'aime bien, Jean-Marie, ce que vous dites, on pour le PSG et pour l'OM, ça c'est magique.
C'est beau.
Oui, supporter de tous les clubs français. Alors justement, ce soir, il y a la grinta marseillaise, il va falloir peut-être un peu plus aussi que simplement la grinta. C'est le grand jour, hein, disons-le clairement, pour l'Olympique de Marseille qui dispute donc ce soir sa demi-finale aller face à l'Atalanta Bergame. Ce soir, Marseille veut continuer de croire en sa bonne étoile, Jordan.
Sa bonne étoile, pas celle de la Ligue des Champions, hein, mais oui, plutôt celle de l'Europa League, une demi-finale de Coupe d'Europe. C'est presque inespéré au vu de cette saison contrastée. Alors forcément, Jean-Luc Gasset, le coach marseillais, veut y croire à fond.
On se dit que rien n'est impossible, qu'on fait des choses bien, des choses un petit peu moins bien, mais que dans l'état d'esprit, il faut être toujours présent. On a tous les objectifs devant nous. Personne ne peut nous empêcher de rêver.
Rêver, oui, mais en Europe, parce qu'en championnat, c'est plus compliqué. L'OM est 7e et loin du podium, l'objectif initial en début de saison.
Surtout, les joueurs marseillais pourront compter ce soir sur un stade Vélodrome en fusion.
Comme très souvent d'ailleurs dans les rendez-vous européens, et ce sera sûrement l'atout numéro 1 des Olympiens ce soir, le soutien des tribunes et plus globalement d'ailleurs, le soutien de toute une ville. Justement, les supporters que nous avons rencontrés hier, eh bien, ils sont à bloc.
On voit qu'en Europe, il y a l'ADN Europe et évidemment que sans le Vélodrome, c'était cuit.
Le Vélodrome, il va péter, ils savent qu'on sera là et il faut surtout pas encaisser de but, il faut en mettre un maximum.
Et figurez-vous que depuis 48 heures, eh bien, le club continue de faire monter la sauce autour de cette rencontre, notamment avec un clip publié sur les réseaux sociaux. Écoutez, ça pourrait presque mettre des frissons à un supporter du PSG.
Ce film est fait pour toi. Toi qui es debout à l'heure où le monde dort. Toi qui parles trop fort dans un monde qui se tait. Toi qui chante trop. Toi qui pousse trop. Pour toi, Marseillais, qui ne vit jamais à moitié. Bienvenue en demi.
Bienvenue en demi.
C'est la voix de Jules, non ?
Effectivement, vous l'avez reconnu.
Mais c'est Jules qui a prêté sa voix à l'OM pour ce clip ?
Effectivement, c'est génial. La voix de Jules qui a prêté sa voix. Je vous l'ai dit, Jules donc se montre confiant pour l'Olympique de Marseille. Tout le monde l'est et tout le monde est mobilisé pour que cette soirée soit grandiose au Vélodrome.
Ah bah on va demander à Jean-Marie son prono pour ce soir. Jean-Marie, Marseille, Atalanta, ça donne quoi ce soir ? Pardon, j'ai pas entendu Jean-Marie.
Pardon. Je vois du 3-1 pour l'OM.
Du 3-1 pour l'OM. Ah bah oui, optimiste. Alors 3-1.
Très optimiste.
Très optimiste, on l'entend. Optimiste aussi pour le PSG au retour. Bon, il y en a, je suis sûr qu'il
va... La semaine prochaine, le PSG suit l'OM, il n'y aura pas de problème, je pense.
Ah, il faut que le PSG suive le modèle marseillais. Non, mais c'est vrai qu'il a manqué un peu de grinta marseillaise hier soir au PSG. Je partage l'analyse. Jean-Marie, bon, il y en a un ce soir qui va pousser à fond derrière son club, derrière l'OM. C'est Soprano, le rappeur Soprano. Dans ton bonus ce matin, Géraldine, Soprano, qui se lance désormais au cinéma.
Bah oui, décidément, sur tous les fronts. Hein. Son nouvel album arrive en juin. La semaine prochaine, il va porter la flamme olympique lors de son arrivée à Marseille, où il va donner un immense concert. Et comme si ça ne suffisait pas, Soprano vient d'entamer sa carrière d'acteur. Bah oui, il va tenir le rôle principal d'une comédie d'aventure familiale. Le tournage vient de débuter, ça s'appelle Marius et les gardiens de la cité phocéenne. Soprano y incarne le rôle d'un guide touristique qui s'est autoproclamé roi de Marseille et qui trimballe ses clients dans un bus panoramique. Un jour, il tombe en panne, il rencontre trois gamins qui prétendent être sur la piste d'un trésor. Et pour la suite, il va falloir attendre 2025 pour découvrir donc ses aventures sur grand écran. Mais dès la semaine prochaine, on verra Soprano enflammer la cité phocéenne avec son compère Alonso pour l'arrivée de la flamme.
Ah oui, décidément, inarrêtable, Soprano. Là, il vient de débuter donc un premier tournage au cinéma, un album en juin, la flamme qu'il va... Je crois qu'il va allumer la vasque même au Vélodrome. Ce sera l'ultime porteur de la flamme la semaine prochaine.
Ça,
oui, c'est classe. Et puis ce grand concert dans le Vieux-Port avec Alonso. Bref, Soprano sur tous les fronts, superstar. Je crois que c'est la personnalité préférée aussi des moins de 14 ans. Bref, Soprano, oui, sur tous les fronts, comme tu le dis, Géraldine. Et puis, Anthony, tu nous as promis ce matin un tour en voiture. Mais alors attention, en voiture chinoise, tu vas nous présenter le concurrent chinois de Tesla. Ça s'appelle BYD, ça s'écrit BYD, c'est ça, BYD. Ouais. BYD. Alors, Que vaut-elle, cette Tesla chinoise, Anthony?
Elle est très, très étonnante. Alors, BYD, donc BYD, ça veut dire Build Your Dreams. Voilà, construis tes rêves. Très jolie marque qu'il va falloir apprendre à connaître. Ils commencent à s'installer en France. Ils ont des gros objectifs. Il y a déjà une vingtaine de concessions.
Est-ce que ça me disait rien, mais on va commencer à les voir rouler en France.
Absolument. Non, mais vraiment, ça commence à s'installer. Ils ont des très grosses ambitions sur l'Europe et ils ont présenté, c'est un peu leur vitrine technologique pour montrer qu'ils n'ont pas à rougir face à Tesla, notamment, une voiture complètement dingue. Alors, c'est un SUV. Hein. On n'est pas sur de la voiture écolo, c'est du gros SUV qui tâche, ça a beau être électrique, c'est quand même une voiture qui pèse plus de 3 tonnes, complètement tout terrain. Et là, alors, première prouesse technologique, c'est que cette voiture, elle est capable de faire un tour à 360 degrés sur elle-même sans bouger de place. Alors c'est très étonnant, comme un char.
Ce qui n'a aucun intérêt.
Alors, c'est juste pour le show, c'est la démonstration technologique.
Pour filmer sur le parking du supermarché.
Exactement, ça dit c'est pratique, hein. Tu mets moins de temps à faire ton demi-tour, c'est-à-dire t'as juste à appuyer sur un bouton.
360, et la voiture... c'est pas un demi-tour en fait, c'est un tour complet.
C'est un tour complet. Oui,
la position initiale, ça n'a aucun intérêt. Voilà.
Non mais tu peux faire le tour complet, mais tu peux t'arrêter à 180 degrés si tu as envie. Okay, tu vois, tu fais le tour que tu veux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la voiture, elle tourne sur elle-même. Okay. Voilà, c'est ça la possibilité. Alors c'est très spectaculaire, je dois dire, parce qu'en fait la voiture, il y a 4 moteurs électriques, un pour chaque roue, et donc les roues tournent dans tous les sens. Oui. C'est toi qui décides. C'est assez étonnant.
Comme les voitures télécommandées là.
Ouais, exactement.
Quand on était petit,
C'est tout à fait ça. Alors la deuxième petite fonction qui est assez rigolote, mais c'est pareil, l'utilité. Et discutable, on va dire, c'est que tu as un drone embarqué dans le toit de la voiture. Donc tu appuies sur un bouton sur le tableau de bord, tu as le drone qui sort du toit et qui va aller voir devant toi s'il y a des embouteillages par exemple, tu peux voir ce qui se passe devant toi sur la route.
Oui, j'ai
les vois assez vite.
Tu
peux aussi t'en servir par exemple, je sais pas moi, pour prendre des vidéos, des paysages absolument incroyables que tu croises sur le chemin des vacances. Là encore, on est dans la pure démonstration technologique.
Oui, on est dans les gadgets.
Te dire que voilà, en tout cas,
on conduit en regardant un écran sur les paysages, les
embouteillages. Ouais, après le drone il se débrouille tout seul. Tu l'envoies, voilà, et après il atterrit, il se remet dans le toit de la voiture. Non, mais on n'a pas de voiture qui permette ça aujourd'hui, quoi, si tu veux. C'est assez étonnant.
Oui, et puis alors, puisqu'on est dans la liste des particularités de cette voiture, elle peut aussi nager.
C'est ça, elle peut aller dans l'eau sans problème. Alors, je sais pas si c'est une fonctionnalité que vous utiliserez tous les jours pour nager dans la Seine, éventuellement, je ne sais pas. Jusqu'à 1,5 mètre de hauteur, pas de problème, la voiture peut naviguer, la suspension se relève, le moteur se coupe, les fenêtres se ferment et le toit s'ouvre pour laisser sortir les passagers en cas d'urgence. Et la voiture peut, comme ça, nager pendant une trentaine de minutes à 3 km/h par simple patinage des roues qui font office d'hélice. Ça fait un petit peu penser, même si ça va pas jusque là, à la voiture amphibie, vous savez, de James Bond.
Oui. Hein,
Roger Moore, c'est extraordinaire, la Lotus Esprit pour les connaisseurs qui avait été élu meilleur gadget de l'histoire par les fans de James Bond. On n'en est pas encore tout à fait là.
Mais avec pour l'instant, elle est très gadget, cette BYD, mais est-ce que face à Tesla, est-ce qu'elle fait le poids en termes de pour rouler quoi, autonomie, recharge, etc.
Absolument. Non, mais sur les points importants et technologiques, elle fait aussi l'affaire. Après, c'est vraiment leur SUV un peu haut de gamme. Ils ont aussi d'autres voitures qui sont vraiment plus face à celle de Tesla, les modèles 3, etc. Donc vraiment marque, en tout cas, dont on va de plus en plus entendre parler. Voilà. Donc retenez bien le nom si vous ne le connaissez pas, BYD.
Voilà, vous allez les croiser sur les routes très bientôt et vous en aurez entendu parler pour la première fois sur RMC grâce à Anthony Morel. Je ne sais pas si la Tesla chinoise a convaincu Jean-Marie, qui est toujours avec nous depuis la Haute-Corse. Jean-Marie, prêt à passer à la Tesla chinoise?
Ah oui.
Oui,
mais bon.
Ah, bah du coup, ça a convaincu Jean-Marie. Et puis tiens, Jean-Marie, je ne vous ai pas demandé ce que vous viez réveiller de si bonne heure là. C'est pour le boulot?
Mais écoutez, j'attends le service médical. Je suis un peu fatigué à la maison. Et donc j'attends l'infirmier, vous voyez.
Eh ben super. Bon, salut aussi justement, j'en profite à travers vous, Jean-Marie, tous les infirmiers, les infirmières qui aussi se lèvent tôt, évidemment. Il y a pas de jour férié non plus aussi. Je pense aux aides à domicile, etc. Voilà, qui sont sur le pont de bonne heure. Et puis Jean-Marie, on va vous souhaiter une bonne journée du côté de la Haute-Corse.
Et je dirais, comme on dit en Corse, force au PSG et à l'OM.
Incroyable. Jean-Marie, voilà, supporter du... Comme ça, tout le monde est...
Le conciliateur.
Tout le monde est servi ce matin, grâce à Jean-Marie. Merci d'être passé par le 32-16. Tiens, Jean-Marie, on va vous envoyer un petit cadeau, une petite coque pour le téléphone, la petite coque pour smartphone RMC. On vous l'envoie du côté de la Haute-Corse. Ça nous a fait très plaisir de partager un moment avec vous ce matin. Jean-Marie, vous repassez quand vous voulez au 32-16. Vous connaissez le chemin. Vous faites comme Jean-Marie, un petit coup de fil au 32-16 et hop, vous vous installez autour de la table d'RMC le matin pour partager un petit café. Toute l'info avec la bande du matin. Il y a aussi Direct Studio, évidemment, pour tous vos messages, tous les leftos. Géraldine les a sous les yeux en direct.
Et oui, vous savez où trouver des milliards pour aider Bruno Le Maire à faire des économies. Nathalie nous demande pourquoi il ne lance pas un grand emprunt obligatoire alors que les livrets A sont au plus haut. C'est une question qu'on pourrait lui poser, effectivement. Pour Souve, il suffit d'arrêter les cabinets de conseil. C'est comme ça qu'on fera des économies. Sinon, il y a Aurélien qui propose à Bruno Le Maire de jouer au loto.
Oui, on est presque là. En tout cas, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, je vous le rappelle, 8 8h30 ce matin sur RMC et BFM TV dans le face-à-face. Il répondra à toutes les questions d'Apolline, mais dès maintenant, on vous attend au 32-16. Où trouver ces fameux milliards d'euros d'économie? Est-ce que pour raboter les budgets de l'éducation, de la santé, on parle de l'assurance chômage, aussi les pistes d'économie, ça se passe avec vous au 32-16. Tout de suite aussi, c'est le journal de 6h sur RMC qui approche dans quelques minutes. On va revenir évidemment sur la défaite du PSG hier soir à Dortmund. Vous allez entendre le coach parisien, Luis Enrique, pas vraiment inquiet avant le match retour, vous allez l'entendre.
RMC jusqu'à 6h30, Charles Matin,
Charles Magnin.
5h58, vous êtes bien sur RMC à la radio et désormais vous pouvez nous voir si vous allumez la télé sur le canal 23 de la TNT sur RMC Story. Vous verrez que Quentin Vinet est déjà installé pour le journal de 6h.
Bonjour à
Quentin.
Tous. Ça va, t'as bonne mine.
Il y a le match retour.
Il y a le match retour là. Je suis plein d'espoir. Voilà, ce matin, évidemment, pour le match retour, sa chambre, oui.
Après, non, je me fais du souci
après,
pour toi.
Après chaque défaite parisienne, oui, voilà, c'est ça. C'est du souci sûrement. Et puis avec Géraldine, on va regarder. Eh bien, la météo du jour, ça se calme un peu du côté de la pluie.
Oui, mais il y aura. Alors, ça se calme du côté des orages, mais il y a quand même encore pas mal de pluie. Le Calvados en vigilance orange pour les crues. Et vous êtes plusieurs sur Direct Studio à alerter sur le fait qu'il pleut énormément du côté de Lyon en ce moment. Et effectivement, sur une très large moitié est, on va avoir de la pluie toute la journée, avec les pluies les plus soutenues qu'on retrouvera plutôt sur le sud-est. Vers l'Atlantique, là, c'est nettement plus calme. On aura de belles éclaircies, même si on pourra quand même aussi avoir une petite averse dans le courant de la journée. Les températures sont en baisse. Cet après-midi, on sera sous les normales de saison, avec 12 à Lyon, 14 à Paris, Marseille, Brest, 16 à Bordeaux, La Rochelle, Montpellier, 18 à Lille, jusqu'à 19 à Strasbourg et Bastia. Et puis demain, on aura des averses orageuses de l'Atlantique jusqu'au Massif central.
La météo sur RMC avec Sonelia. 30 campings villages vacances pour vos plus belles expériences en France et en Europe.
Bon réveil à tous, vous êtes bien sur RMC, il est 6h.
RMC, Charles Matin.
Le journal en direct avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Paris battu 1-0 hier soir à Dortmund, demi-finale de Ligue des Champions, mais Paris pas abattu. C'était le match aller et les supporters que vous allez entendre y croient pour le match retour mardi prochain. La bataille des européennes, Jordan Bardella méfiant à Perpignan, Gabriel Attal sur une foire du Loiret et Raphaël Glucksmann empêché de manifester à Saint-Étienne. Et puis une trentaine de vols déroutés des aéroports parisiens hier soir. La faute aux violents orages qui ont fait des dégâts également dans le vignoble en Bourgogne.
Et puis première nuit sous couvre-feu à Nice pour les mineurs de moins de 13 ans. Le maire Christian Estrosi espère réduire les trafics et la délinquance. Mais les policiers ne sont pas vraiment convaincus par la mesure. On appelle dans un instant le représentant du syndicat Alliance dans les Alpes-Maritimes. C'est le début d'une semaine de stress pour les supporters du PSG.
Oui, parce que Paris a perdu donc 1-0 hier soir. Dortmund, c'était la demi-finale aller de Ligue des Champions. En attendant, la demi-finale retour mardi prochain à Paris. Les Parisiens qui ont été lents à démarrer ce match avant de se réveiller en deuxième mi-temps. Imprécis, malchanceux surtout. Deux poteaux sur la même action, par exemple, au retour des vestiaires. Soirée frustrante donc dans ce bar parisien. Écoutez avec Clément Brossard.
Des visages crispés, à se ronger les ongles, les supporters parisiens ont vécu une soirée frustrante. Un cri de désespoir. Quand Paris touche deux fois les poteaux.
C'est amer, franchement c'est amer parce que le 1-0 il fait mal.
Charles est partagé entre deux sentiments.
La frustration parce que je pense qu'il y avait la place de au moins égaliser. Après de la confiance, je pense qu'on a la meilleure des deux équipes et je pense que ouais, sur le match retour ça devrait le faire.
Anaïs et Maïwenn, elles, n'ont aucun doute.
Bien sûr, ce sera à la maison en plus, donc bien sûr. Le match retour, moi j'ai aucune crainte, on va le faire.
Ils n'ont mis qu'un but, hein.
Facile.
Ils n'ont pas mis trois,
facile.
Trois, comme le nombre de buts inscrits par Barcelone en quart de finale aller. Battu 3-2, Paris avait su se qualifier. Adèle espère un même scénario.
Cette équipe, elle a déjà prouvé qu'elle avait du caractère. On en attend plus au match retour et on y croit toujours.
Et si certains supporters se retrouveront dans les bars, Olivier lui sera au Parc des Princes mardi prochain.
Ça va être fou, ça va être fou. Ça va être la meilleure ambiance de l'année, je pense.
Tous espéreront voir Paris se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions.
Alors la mauvaise nouvelle de la soirée, c'est la nouvelle blessure au genou de Lucas Hernandez, le défenseur touché sur l'action du but allemand. L'entraîneur Luis Enrique d'ailleurs était pessimiste à la fin du match, mais alors il promettait une réaction de son équipe au match retour mardi prochain.
Les joueurs ne sont pas des machines ou des robots. Au début, on a manqué de technique pour affronter leurs défenseurs. Et dans un match ici, avec ce public, il faut être plus incisif devant. On a eu des occasions claires.
Et après Marseille, bah c'est au tour de, après Paris, c'est au tour de Marseille. Ce soir, 21h sur RMC contre l'Atalanta Bergame, demi-finale de Ligue Europa, l'autre compétition au stade Vélodrome face aux Italiens de Bergame, donc qui ont battu Liverpool au tour précédent en quart de finale. À 6h03 sur RMC, bataille de chiffres au lendemain de la mobilisation du 1er mai. Il y avait 121 000 manifestants partout en France, selon le ministère de l'Intérieur. La CGT en a compté 210 000, 45 interpellations dans le cortège parisien. Des affrontements à distance dans la campagne des européennes, en attendant le débat entre Jordan Bardella du RN et la macroniste Valérie Ayer ce soir sur BFM TV. Le Rassemblement National était comme prévu à Perpignan hier pour lancer un appel à tous les électeurs de droite, mais aussi à tous ceux qui ont le cœur à gauche. C'est ce qu'a dit Jordan Bardella, car même si le RN caracole en tête des sondages, rien n'est acquis, prévenait hier Jordan Bardella, Hélène Terzian.
Les sondages qui dépassent parfois les 30% pour Jordan Bardella, ça a de quoi faire tourner la tête de ses électeurs.
Depuis quelques mois maintenant, voire une grosse année on va dire, je le vois vraiment gagner très largement.
C'est gagné déjà.
Ah, j'y crois beaucoup.
Mais gare à l'excès de confiance, même Jérôme, sympathisant RN venu en famille au meeting, bat le rappel.
Bien sûr, faut toujours aller voter, faut toujours se mobiliser, parce qu'on a été déçus plusieurs fois, déjà aux anciennes élections présidentielles. Hein. Continuer à se mobiliser et faire tout ce qu'il faut pour essayer de sauver notre pays en fait.
L'abstention, c'est aussi ce qui avait fait échouer le parti aux dernières régionales. C'est aujourd'hui la principale inquiétude dans les rangs du RN. Alors Jordan Bardella sonne la mobilisation générale.
Rien n'est acquis, rien n'est gagné. C'est votre mobilisation qui peut ouvrir la voie de l'alternance et bien sûr préparer le redressement du pays.
Allez voter, ne pas se disperser non plus. Jordan Bardella tend la main aux électeurs de Reconquête, de LR et veut incarner le vote utile. Stratégie validée par Anne-Marie, retraitée.
Tous les autres patriotes sont très faibles, donc il vaudrait mieux que tout le monde se rassemble.
Rassembler pour gagner et demander, Jordan Bardella l'a rappelé, une dissolution de l'Assemblée nationale.
Pendant ce temps, déplacement dans une foire du Loiret pour le Premier ministre Gabriel Attal, prié d'intensifier, vous le savez, la campagne par Emmanuel Macron. Meeting à Villeurbanne hier soir pour Raphaël Glucksmann, la tête de liste socialiste, empêché de manifester hier à Saint-Étienne, accusant les insoumis, ce que demande d'ailleurs le camp de Jean-Luc Mélenchon. Il l'avait promis, le rendez-vous avait été repoussé. C'est ce matin, finalement, à 10h, qu'Emmanuel Macron va recevoir à l'Élysée les représentants du monde agricole pour tenter d'acter la fin de la crise de cet hiver. C'est une information RMC ce matin, nouvel appel à la grève à la SNCF, cette fois le mardi 21 mai, uniquement en Île-de-France, où les syndicats demandent de meilleures primes pour travailler pendant les JO. Puisqu'on parle de la SNCF, parole contre parole, écoutez, après une mauvaise aventure vécue par trois enfants de 8, 11 et 13 ans. C'était samedi dernier, trois mineurs qui devaient faire le trajet entre Lille et Rennes. Mais les parents ont dû les récupérer au poste de police parce que la SNCF les a considérés comme des voyageurs clandestins. Les familles ont décidé de déposer une main courante. Pierre Bourgès a joint pour RMC le père de deux de ses trois enfants.
Émeric l'admet d'emblée, il n'est pas arrivé une heure avant le départ du train, comme l'exige le service Junior et compagnie, une option prise pour encadrer les très jeunes voyageurs. Alors il se rapproche d'une employée de la SNCF pour savoir s'il peut quand même les faire monter dans le train avec leur billet, mais sans cette option.
Mon fils a l'âge de voyager seul, elle me fait écoutez, votre fils peut très bien accompagner votre fille.
Rassuré, Émeric les laisse partir, sauf qu'une heure après, la police nationale le contacte. Jeanne et Louis vont être débarqués du train à Roissy. Il doit venir récupérer ses enfants qui, eux, sont paniqués à l'idée de sortir du TGV.
Ce qui les a choqués, c'est de voir 8 policiers en armes rentrer dans une voiture pour venir les chercher.
Selon la SNCF, Jeanne, 11 ans et demi, n'était pas sous la responsabilité d'un adulte, une situation totalement incompréhensible pour leur père.
Je suis, moi, personnellement choqué. Moi, on m'a dit que mes enfants pouvaient voyager dans telles conditions, donc je les ai fait voyager dans telles conditions, et puis finalement, on me les débarque. Je comprends pas. Donc c'est là où j'aimerais bien avoir des comptes de la SNCF et qu'ils nous expliquent, tout simplement.
De son côté, la SNCF indique avoir agi pour la sécurité des enfants qui n'étaient, selon elle, pas garantis pendant le trajet.
Bon, et puis la nuit a été orageuse, hein, Bourgogne, en Picardie, la Normandie, l'Île-de-France aussi, plus de 23 000 éclairs dans le ciel, de fortes pluies, des gros grêlons et une trentaine de vols déroutés, des avions qui n'ont pas pu se poser ou décoller hier soir des aéroports parisiens, Roissy, Orly, Romain Hougue.
Le bruit que font les grêlons en s'abattant sur la carlingue de l'avion de Benjamin suffisent à saisir l'intensité des orages qui ont frappé l'Île-de-France et les aéroports parisiens hier soir. Lui devait partir à Milan depuis Roissy au nord de la capitale, mais son avion est resté cloué au sol de longues minutes avant d'être finalement autorisé à décoller une fois le déluge passé. Comme lui, de nombreux passagers ont vu leur vol retardé. Pagaille également dans les airs, à bord des avions à destination de Paris. Une trentaine de vols vers Orly ou Roissy ont dû être déroutés vers les aéroports de Nantes, Bruxelles, Lyon ou encore Lille. Ce voyageur devait partir à Dublin. Hier soir, son vol a carrément été annulé et reprogrammé pour ce matin.
On devait décoller à 22h et donc on a attendu 22h, 23h, minuit. Et là, on nous dit que le vol est annulé. Donc voilà. Non, mais il y avait vraiment de l'orage. L'avion ne pouvait pas décoller, c'est sûr. Hein.
Dans les terminaux, quelques inondations sont à signaler, mais rien de grave, nous dit la communication d'Aéroports de Paris. Tout sera remis en ordre dans la journée.
Ah, des grêlons gros comme des balles de ping-pong. Il y a cette image impressionnante hein, de la foudre qui s'abat sur le paratonnerre de la Tour Eiffel à Paris.
Oui, mais il sert à ça. Tant mieux.
Voilà. Oui, oui.
Il a fait voilà, son job. C'est toujours une image impressionnante. Mais bon, c'était hier soir. Ça se calme ce matin. Je parle sous le contrôle de Géraldine.
Ah, il y a moins d'orages, mais il y a de la pluie. Hein.
Voilà, il y a de la pluie, mais c'est moins dangereux. En tout cas, que les orages impressionnants d'hier soir. Impressionnant aussi, comme chaque matin, à l'arrivée d'Emmanuel Le Chypre dans ce studio. Bonjour Manu.
Bonjour à tous. Hein.
Bon, Manu était pessimiste hier pour le PSG. Bah, forcé de constater qu'il avait raison. Petit match du PSG hier soir.
Oui, mais alors en même temps, quand vous regardez, enfin, je veux dire, par rapport au match retour, c'est pas possible d'avoir autant de malchance de matchs de suite et d'être aussi maladroit de matchs de suite.
Donc ça passera au
retour.
Donc
moi j'ai pas trouvé, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'ouverture s'ils avaient été un peu plus habiles. Marquinhos marque l'équivalent d'un but quand même. Avec un tacle d'anthologie.
Ouais. Incroyable, un grand marqueur voilà, hier soir. Donc optimiste pour le retour.
Oui, assez parce que je trouve que c'est pas une équipe imperméable. Mmh. Et dès que ça joue vite, ils sont un peu perdus et on a été tellement maladroits.
Mais la vraie Ligue des Champions pour Manu, c'est à 8h30 ce matin. Bruno Le Maire, invité d'Apolline tout à l'heure. Le face-à-face, bah oui, c'est l'affiche événement ce matin sur RMC. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, à ne pas manquer tout à l'heure. D'ailleurs, dès maintenant, dites-nous au 32-16, tiens, où trouver les milliards d'euros que le gouvernement cherche? Où sont les économies? On parle de l'éducation nationale, de l'assurance chômage, de la santé, pourquoi pas? Où faire des économies? Venez nous le dire au 32-16. Et puis, puisqu'on parle du face-à-face, notez bien que lundi prochain, nous lançons un nouveau rendez-vous, le face-à-face et vous. Ce sera sur RMC et BFM TV de 8h10 à 9h. Des personnalités politiques de premier plan vont venir répondre aux questions d'Apolline, évidemment, mais aussi à vos questions, à vous, auditeurs d'RMC. La première invitée de ce nouveau rendez-vous, ce sera lundi. Notez bien que ce sera Marine Le Pen, la présidente du groupe RN à l'Assemblée. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour lui poser vos questions en direct. Vous envoyez un mail à l'adresse vosquestions@rmc.fr ou bien en appelant tout de suite le 3216. Vous notez le rendez-vous, le face-à-face et vous. Ça commence lundi prochain de 8h10 à 9h sur RMC et BFM TV. En attendant, il est 6h10 sur RMC.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
6h13, vous êtes bien sur RMC. On part à Nice.
L'invité de Charles Matin.
Bonjour Laurent Alcaraz.
Bonjour.
Vous êtes délégué du syndicat de police Alliance pour les Alpes-Maritimes et Nice vient de vivre sa première nuit sous couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans. Couvre-feu instauré hier soir à partir de 23h jusqu'à 6h du matin. Bah tiens, ça vient de se terminer là, ce premier couvre-feu, cette première nuit sous couvre-feu. Est-ce qu'il y a un premier bilan, Laurent Alcaraz? Est-ce que vous avez eu des remontées de terrain cette nuit?
Non, pas du tout, hein, pas pour le moment, il est beaucoup trop tôt. Le temps que les chiffres soient collationnés, qu'on puisse faire une synthèse de tout ça, pour le moment, on n'a rien. On aura ça d'ici peut-être 12 ou 24 heures.
Alors, on va quand même préciser hein, le contenu de cet arrêté qui impose donc un couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans, de 23h à 6h du matin, dans la plupart des quartiers de Nice, sur l'ensemble des points d'attroupement de toute la ville, dit le texte. Mais ce couvre-feu s'applique au moins de 16 ans, précisément dans le quartier des Moulins. Écoutons d'ailleurs Christian Estrosi. Il était la semaine dernière sur RMC. Il expliquait pourquoi ce couvre-feu s'applique au moins de 16 ans, précisément dans ce quartier des Moulins.
Lorsque je vois, par exemple, ce qui se passe sur le trafic de drogue dans des points de deal qui sont bien identifiés dans un quartier qui est celui des Moulins, par exemple, nous allons voir si nous ne pouvons pas monter jusqu'à 14, 15, voire 16 ans, là où nous voyons les difficultés qu'il y a pour la police et pour la justice de venir à bout de certaines filières.
Alors, Laurent Alcaraz, Christian Estrosi dit c'est pour venir en aide à la police, ce couvre-feu pour les moins de 16 ans, précisément dans ce quartier des Moulins, gangréné par le trafic de stup. Est-ce que ça va vraiment vous aider ?
Alors, oui, dans une certaine mesure, hein, il faut pas prendre cet arrêté comme la solution absolue au trafic de stupéfiants sur Nice et en France dans sa généralité. Ça peut aider. Alors après, attention, on va avoir affaire à deux types de mineurs. Hein. On va avoir affaire aux mineurs français. Donc là, il y aura aucune difficulté de prise en charge par les forces de police. Hein, ça, on arrive à établir l'identité, appeler les parents, vient les récupérer au commissariat. C'est une chose. La deuxième va être la problématique des mineurs non accompagnés. Donc des mineurs étrangers en situation clandestine. Donc cela, ça va être beaucoup plus compliqué. Il va falloir établir l'âge. Il va falloir également établir la nationalité, les faire prendre en charge par des associations, les mettre dans des structures départementales. Alors, quid de savoir est-ce qu'il y aura assez de place, est-ce qu'il y en a assez ? Et surtout, ces structures, elles sont dites ouvertes. Donc, le mineur peut à n'importe quel moment s'échapper et retrouver un nouveau point de trafic de stupéfiants.
Alors ça, c'est pour le quartier spécifique des Moulins. Mais donc, dans le reste de la ville, ce couvre-feu s'applique aux mineurs de moins de 13 ans. Mais Laurent Alcaraz, est-ce qu'il y a beaucoup de mineurs, de gamins de 10, 11, 12 ans dans les rues du centre-ville, dans le Vieux-Nice, la nuit entre 23h et 6h du matin?
Alors pour être sorti il y a très peu de temps dans le Vieux-Nice, j'en ai pas vu beaucoup. Il faut aussi voir que cet arrêté prend une mesure de protection envers les mineurs qui peuvent être victimes, parce qu'on a quand même, cet arrêté fait état, de 141 mineurs victimes pris en charge par la police municipale. Donc des victimes de violences avec armes, d'agressions sexuelles, de vols et autres. Alors, effectivement, l'arrêté ne donne pas d'âge précis, mais depuis 2023 jusqu'au premier mois de 2024, on a quand même 141 mineurs victimes dans le centre-ville.
Alors, il y a la question donc des mineurs étrangers, les mineurs impliqués aussi dans le trafic de stup, mais que se passe-t-il pour ces mineurs quand vous les attrapez, les mineurs français? Vous nous disiez, on contacte les parents, mais j'imagine les parents les récupèrent. On leur fait passer un petit message quand même aux parents, non, quand il y a leur gamin de 11-12 ans dans la rue à minuit?
Ah, tout à fait, là on est dans une phase de parentalité. On est à éduquer les parents. Donc, si vous voulez, le rôle de la police n'est pas d'éduquer les parents. Normalement, les parents sont censés pouvoir gérer leurs enfants, les faire rentrer tôt à la maison. D'ailleurs, les miens ne sont pas dehors après 20h. Hein. Donc, tout le monde est capable de le faire. La difficulté qui va se passer pour la police, c'est qu'on va se substituer à des services sociaux ou des colonies de vacances, parce qu'on les patrouilles de police vont ramener des mineurs au commissariat. Charge après à eux d'appeler les parents. Si c'est les mineurs non accompagnés, il va falloir faire pas mal d'actes judiciaires. Donc je pense à mes collègues de la police judiciaire, de tout ce qui est investigation. Ça fait des charges de travail incroyables.
Mais juste, vous dites, on va appeler les parents, ils viennent les récupérer au commissariat, mais ils risquent rien. Il n'y a pas d'amende.
Attention, si le mineur est auteur d'un délit, il risque évidemment quelque chose.
Mais s'il est dans la rue, un gamin de 12 ans dans la rue à Nice, à minuit, il est interpellé, enfin en tout cas, voilà, il est interpellé, ramené au commissariat, les parents viennent le chercher et on leur dit, voilà, vous rentrez avec votre enfant, bonne soirée messieurs, dames.
Écoutez, pour le moment, moi, j'ai pas eu connaissance d'une quelconque amende. J'imagine qu'il y en aurait une de mise en place quand même. Hein. Il y aura quand même
l'arrêté dit en cas de récidive, ça veut dire si on récupère le même mineur plusieurs fois en pleine nuit.
Quid de plusieurs fois? À partir de combien?
Oui, voilà. Mais donc on comprend bien que vous avez l'impression que ça changera pas grand-chose si vous retrouvez ces mêmes mineurs plusieurs fois dans la rue.
Alors, c'est pas que ça change pas grand-chose, c'est que ça fait partie, à mon sens, d'une solution qui est beaucoup plus globale. Si on commence à faire ça, arrêter des gens, enfin des mineurs, les ramener, les interpeller, les ramener au commissariat, les redonner à leurs parents, sans qu'il y ait autre chose derrière, à mon sens, il devrait avoir un peu plus de mesures éducatives pour le mineur déjà, surtout pour le mineur non accompagné, parce que le mettre dans un centre ouvert et le laisser après livrer lui-même puisse partir, aucun intérêt pour nous, aucun intérêt pour le mineur. Cependant, cette mesure doit s'inscrire en partenariat avec l'éducation nationale, par exemple, la justice, beaucoup de ministères différents pour qu'elle soit efficace, au moins pour le mineur.
Oui, donc c'est un outil en plus, mais pas une baguette magique, comme vous nous l'avez dit ce matin. Merci encore, Laurent Alcaraz, délégué départemental du syndicat de police Alliance pour les Alpes-Maritimes, d'avoir été en direct avec nous ce matin sur RMC, au lendemain de cette première nuit sous couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans à Nice et même de moins de 16 ans dans le quartier des Moulins. Il est 6h20 sur RMC.
RMC
jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
Et à 6h20, vous avez fait le bon choix. Vous vous réveillez avec RMC. Et tous les matins, Manu Le Chip s'occupe de votre pouvoir d'achat.
RMC, Manu Conso.
Et oui, ça s'appelle Manu Conso. Et tiens, voilà un budget qui plombe le pouvoir d'achat des Français ces dernières années, celui du carburant. Eh bien Manu, un nouveau carburant dérivé de l'E85 et encore moins polluant pourrait bientôt arriver sur le marché.
Oui, voilà une nouvelle qui pourrait influencer à terme le match entre voitures électriques et voitures thermiques en termes de bilan carbone d'abord. Et puis aussi, on va le voir en termes de budget aussi, puisque ce nouveau carburant, eh bien, il est dérivé de l'E85. Alors l'E85, il faut le rappeler que c'est un carburant qui est composé à 85% d'éthanol. L'éthanol, il est fabriqué à base de produits végétaux, hein, des céréales, de la betterave, et il contient encore 15% d'hydrocarbures traditionnels. Et en fait, ce carburant pourrait devenir 100% vert. La promesse des chercheurs, c'est de remplacer donc la partie d'essence qui reste, hein, c'est 15% d'énergie fossile, par des carburants renouvelables fabriqués par exemple à partir d'huile de cuisson usagée. Ça veut dire un carburant qui émet encore moins de CO2 et qui émet plus de 90% d'oxyde d'azote.
Mais il a un nom, ce nouveau carburant?
Moins, non, on ne
c'est
connaît
un
pas
dérivé de l'E85,
c'est
ça?
C'est un dérivé de l'E85. Bon. Alors après, si on fait le bilan carbone global, attention, hein, par exemple, l'approvisionnement en huile usagée, etc., ça risque d'être peut-être un peu plus un peu moins propre.
Bon, il pourrait donc bientôt être disponible à la pompe, mais oui. Combien il va coûter, à combien le litre?
Alors, le 85 aujourd'hui, c'est 90 centimes le litre environ, puisqu'il est bien moins taxé que les autres carburants grâce à ses composants moins polluants. Je rappelle hein, qu'on est aujourd'hui sur entre 1,90 et 2 euros quasiment, hein, sur les
le
carburants en 98 et en 95. Donc, si vous roulez aujourd'hui à l'E85, vous payez 90 centimes, ce nouveau carburant, il coûtera quelques centimes plus cher. Donc, ça changera peut-être pas radicalement votre vie. Vous aurez la satisfaction d'avoir un carburant moins polluant. Mais pour ceux qui roulent aujourd'hui avec des moteurs à essence, eh bien, ça peut-être vous convaincre d'aller faire installer le fameux petit boîtier qui vous permettra.
Là aussi, il faudra adapter son moteur,
oui,
comme pour aujourd'hui, l'E85 actuellement.
Absolument. Pour D'accord. utiliser de l'E85 aujourd'hui, il faut avoir un moteur à essence adapté. Donc, si c'est un moteur traditionnel, vous rajoutez un petit boîtier qui coûte entre 700 et 1000 euros. Donc oui, au départ, c'est un investissement. Mais après, vous utilisez un carburant qui coûte 1 euro moins cher le litre, ce qui fait sur l'année, en fonction du nombre de kilomètres que vous faites, ça peut faire entre 500 et 600 euros d'économie. Donc, c'est un bon investissement et vous roulerez encore plus propre.
Eh ben, vous savez tout maintenant de ce nouveau carburant, ce dérivé de l'E85 qui pourrait bientôt arriver à la pompe grâce à Manu Conso.